Sous les pavés, la Ferrarock.
Interview d'artistes.
Paroles de musiciens. Histoire de groupe.
Alors on accueille Hocus Pocus et on est très content. Et c'est Jérémy, vous l'avez compris, qui vous accueille avec Adrien.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Jérémy Dadou. Sans Vincile qui est malade. Hein.
Qui a une extinction de voix. Mais ce soir, il sera là.
Est-ce qu'il va s'en remettre? Ouais,
oui, oui.
C'est un vrai guerrier. Bon, alors la question qui se pose, on a eu Rossé et Wax Taylor, donc je vais vous la poser également à vous.
Kazé, j'étais pas rêvé.
Mais Kazé, au niveau instrumental, c'est tout de même assez différent. Parce que justement, Rossé, à l'instar de Rossé et de Wax Taylor, vous-même, vous êtes assez influencé par les sons un peu old school, que ce soit la soul, le funk. Est-ce que le renouveau du hip-hop ne peut passer que par les sons du passé, finalement?
Non, je pense que c'est une école, c'est une influence. Quoi. Je pense que Rossé ou Wax Taylor, pour connaître un peu les deux, ont les mêmes influences et sont vraiment, ont été baignés dans les hip-hop des 90s, qui prenaient sa source dans les sons organiques comme ça. Et en fait, on est un peu, on a cette vision du hip-hop, mais il y en a vraiment des différentes. Et aujourd'hui, on peut trouver vraiment beaucoup de styles différents dans le hip-hop, électronique ou... plus dark, etc., plus abstract. Et nous, voilà, on se dirige vers ce côté-là, inspiré par les musiques chaudes, la black music des 70s. Quoi.
Pour en revenir sur votre album, vous revenez 3 ans après Place 54 sur 16 pièces. Et à l'époque de Place 54, il y a eu une sorte d'émulation, de bouillonnement autour de Hocus Pocus. Est-ce que vous avez ressenti une certaine pression? Est-ce que ça a été délicat de rebondir après cet album-là?
Sur Place 54, je pense qu'il y a eu, oui, il y a eu vraiment un buzz parce qu'il y a eu un changement dans la médiatisation. Et on a commencé à être plus exposés, donc les gens ont découvert ce qu'on faisait. Et c'est vrai que là, on a une certaine pression pour cette pièce parce que toute notre carrière a été vraiment faite sur l'évolution positive. On a toujours progressé depuis le début et donc on en attend toujours mieux pour la sortie de nos albums, pour les scènes, etc. On vise toujours plus haut.
Justement, la scène, je crois que contrairement aux anciens albums, vous avez composé 16 pièces avec le côté scénique en tête. Est-ce que c'est parce que maintenant vous assumez un peu plus la scène qu'auparavant?
C'est pas qu'on assume, c'est juste peut-être une différente manière de travailler. Avant, ça se faisait plus en studio avec Vincile et Grim. Et du coup, là, on essaie de rassembler un petit peu toutes les compos qu'on avait avec nous. Après, Vincile a fait son tri par rapport à ce qui l'inspirait pour les textes. Et après, c'est vrai qu'on a travaillé plus en amont que les autres albums, les nouvelles chansons. On a d'ailleurs fait une tournée de 30 dates à l'automne.
Où vous repreniez des...
Des nouvelles chansons et des chansons de l'ancien set, mais pour un peu jauger le public, voir leur réaction, et puis surtout se familiariser avec les nouveaux sons pour arriver...
Le live a beaucoup servi à l'album, là, contrairement aux albums précédents. On a pu développer la scène en même temps que la construction en studio, donc on pouvait retoucher selon les réactions du public.
C'était aussi indispensable de tester cet album en live finalement? Parce que je crois que vous l'avez composé un peu dans l'urgence, 16 pièces finalement, moins de 3 mois, en tout cas en ce qui concerne les textes.
Les textes ont été écrits très vite, et après quand même le côté instrumental a mis plus de temps parce qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Il y a eu des invités, il y a eu la section cuivre aussi qui bossait de son côté avec Thomas Faure qui la dirigeait. Donc en fait tout ça a mis du temps à s'assembler, et il y avait par-dessus le live à caler, donc il y a des timings à respecter qui sont assez chauds, mais finalement on a réussi à pondre 16 pièces.
Ouais, et puis il y a plus de 30 musiciens qui ont participé à cet album, donc vraiment je pense qu'on a réussi à avoir un truc qui nous plaît. Un riche éventail d'instruments, des cuivres, des guitares, des machins. Ouais, non, vraiment, là, on a été plus profondément, je pense, que les autres albums, et on a plus pris le temps, plus les morceaux, je pense, sont plus léchés quelque part. Si t'écoutes bien, ouais, sur chaque morceau, t'as beaucoup d'instruments, et plus que sur les autres.
Tout à l'heure, vous parliez d'évolution, je pense qu'Adrien sera d'accord, parce qu'il vous connaît bien, mais effectivement, il n'y a pas eu de trahison entre Place 54 et 16 pièces. Finalement, c'est une évolution assez lente qui a mis 3 ans, certes, mais vous revenez toujours avec vos fondamentaux. Alors, est-ce que finalement, ce qui a changé entre ces deux albums, c'est juste une sorte de, je ne vais pas dire l'album de la maturité, ça va être un petit peu désuet comme terme, mais justement, un peu plus d'assurance, un peu plus d'expérience?
Si, en fait, c'est eux, ça suit vraiment son évolution naturelle, et on retrouve, oui, les gens qui ont écouté et qui ont aimé Place 54 ne sont pas dépaysés avec 16 pièces. Et je pense que oui, on a encore fignolé, et sur scène, on a encore pris de l'expérience. Et en studio, on s'est entouré de plus en plus, on a fait des contacts pendant la tournée de Place 54 et avec les différents icos avec qui on a collaboré. Donc en fait, ça a pris en richesse instrumentale. Vinci prend aussi en maturité au niveau du texte. Donc tout va dans le bon sens, quoi.
Justement, ce soir, vous jouez au Palais d'Oron, vous étiez découverte en 2002. Ça vous fait quoi, là, d'arriver sur une grosse scène et de voir votre évolution comme ça, notamment sur ce festival où vous jouez devant un public de plus en plus présent et de plus en plus nombreux ?
Bah écoute, je pense que nous, on est surpris tous les jours. Enfin, quand on prend du recul, on hallucine parce que, par exemple, on a joué à Zurich avec De La Soul. Là, on a appris qu'on jouait avec Cypress Hill. On joue avec des... Moi, personnellement, c'est les trucs que j'ai dans la discothèque, que je joue à mon émission de radio. J'étais fan, j'écoutais des mixtapes et tout. Et là, on se retrouve à jouer avec eux, donc c'est un peu hallucinant. Et c'est vrai qu'en 2002, quand on a fait les découvertes de Bourges, si on nous avait dit, bah, vous allez jouer avec tel artiste, faire ces scènes-là, on aurait rigolé, quoi. Et là, bah, voilà, on est comme des gosses et on kiffe, quoi. On n'est pas du tout blasé. Et à chaque fois, on fait le maximum pour vraiment donner, pour avoir une bonne image vis-à-vis du public, quoi.
Justement, ce soir, il y a un peu un ton dans la soirée. Vous jouez avec Wax Taylor, Speech Jebel et Tommy and the Volume. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu ? Moi, je sais que Wax Taylor m'avait rapporté ça, de ne pas justement se retrouver sur une grande scène face à un public qui vous connaît moins et être vraiment encore une découverte pour vraiment le grand public et de se retrouver comme ça, un peu propulsé et pouvoir encore avoir une aura plus importante. Est-ce que ça ne vous fait pas envie comme ça d'avoir vraiment un public encore un peu inconnu et encore faire ses preuves?
Quelque part on l'a fait, là on est en tournée. Je t'avoue qu'aujourd'hui tu dis ça, mais je veux dire demain on est à Perpignan. On n'a pas un public acquis, hein. Moi ça me dérange pas. Le dernier plateau qu'on a fait ici, c'était Cyan, Puppet Mastaz et Cold Cut dans la même salle. Du moins qu'il y ait des gens qui viennent nous voir et qui kiffent. Franchement nous...
C'est bien aussi d'avoir des soirées thématiques entre guillemets. Et après aussi on va faire sûrement d'autres festivals genre les Franco quand on avait joué avec Catherine Ringer, avec Rose, etc. Ensemble, là c'est ouais. Marrant parce qu'on voit vraiment des gens qui nous découvrent. Donc je pense qu'il faut un peu des deux, mais je comprends ce que dit Wax Taylor par là, quoi. C'est vrai que c'est sympa aussi de sortir hors des sentiers battus puis de faire d'autres scènes et de faire découvrir son univers à des gens qui sont pas du tout touchés par cette musique à la base, quoi.
Une question que j'aurais peut-être dû poser à Vincile, c'est dommage, il n'est pas là, mais donc, au côté, même si votre public est assez large et vous apprécie beaucoup, une certaine partie de la critique parfois peut vous octroyer des textes un peu fleur bleue. Alors un peu, est-ce que finalement ce qu'on peut supporter par le R&B anglo-saxon est plus difficile à faire accepter dans la transposition francophone et française?
Ouais, là, quand tu parles du côté fleur bleue, je pense que c'est plus une critique du rap qui se dit rap ghetto ou rap de rue, où c'est pas assez, il y a pas assez de punchline, où il y a pas de revendication claire. Et en fait, c'est vrai que, enfin, Vincile a des textes très imagés, thématiques, et où il utilise la dénonciation sous forme de second degré. C'est toujours détourné, et c'est sa manière d'écrire. Après, il laisse le soin aux autres qui le font très bien. Enfin voilà, d'écrire, de dénoncer des choses, où il y a d'autres artistes de rap qui vont se taper des tripes encore plus lointains au niveau des thèmes, etc. Je pense que c'est à chacun de trouver son style et puis d'être authentique surtout, quoi, parce que Vinci ne va pas faire des textes de la société à laquelle il y a des problèmes, alors que c'est pas son univers forcément au quotidien, quoi.
Oui, il va pas s'inventer un rôle, c'est pas comme s'il venait d'un quartier difficile, je veux dire, il vient de Nantes. Il va bien, il va pas se donner un rôle pour faire, ouais, enfin tu vois, il essaie d'être égal à lui-même, franc, après ça plaît ou pas, mais c'est sa qualité, sa patte, quoi.
Tout à l'heure tu parlais d'autre côté hip-hop, peut-être un peu plus mainstream, avec Wax Taylor on disait qu'il y avait un âge d'or, qu'il y avait eu un âge d'or du hip-hop finalement, où le hip-hop était médiatisé en France, d'une façon un peu plus saine, où il y avait des émissions de télé autour du hip-hop, où le graffiti n'était pas stigmatisé, qui va ensuite une partie de la récupération, et qu'aujourd'hui justement le hip-hop en France était dans une phase de reconstruction, avec des artistes qui tendent à faire évoluer ce mouvement en France, justement en allant puisant dans les sonorités d'antan. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, ou est-ce que vous vous posez même pas la question finalement?
Je pense, ouais, enfin, on se pose pas trop la question, mais il y a un truc qui est quand même dommage, c'est qu'il y a une scène, comme tu dis, qui cherche vraiment à développer quelque chose de musical, parce que, enfin, nous justement on défend le hip-hop pas forcément comme quelque chose de revendicatif, mais une musique où on s'amuse, et il y a beaucoup d'autres groupes qui font ça et qui sont sous-médiatisés, et la voix du rap en France est souvent représenté par des gros médias ou des clichés, et donc oui, c'est sûr que cette évolution là est un peu dommage, quoi.
Merci Grim Dadou, dites bonjour à Vincile. Yes, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir sur scène en compagnie de Tumi and the Volume, de Wax Taylor, et j'en oublie un autre,
et Speech Jebel
pardon pour elle. Merci à vous deux,
merci,
ciao.
Retrouvez d'autres interviews sur ferrarock.org.